RMC. Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot. Nicolas Villas.
Et les brillants Ludovic Obraniak et Jonathan McCardy. 33e journée de Ligue 1 qui a débuté ce soir. Dijon s'est imposé 3-2 face à Rennes. La victoire de Lyon 2-1 face à Angers. On y était sur cette victoire de Lyon 2-1 face à Angers. Justement, les buteurs de Paille et Terrier côté lyonnais. Touzard a marqué contre son camp en fin de match. L'OL qui reste 3e, 5 points de retard sur Lille qui jouera dimanche. Et puis Lyon qui a 6 points d'avance sur l'AS Saint-Etienne. Accueillons Guillaume, supporter de l'OL, justement, qui nous appelé au 32-16. Salut Guillaume.
Salut tout le monde. Bonsoir.
Salut Guillaume.
Bon Guillaume, qu'est-ce qu'il en a pensé de ce match?
Oula. Alors forcément il y a du mieux. Ça c'est clair et net. Après je pense pas que ce soit une performance qui permette une éventuelle sortie de crise en vue du calendrier à venir. Il y a des échéances qui vont être compliquées.
On l'a dit, Bordeaux, Lille, Marseille.
Ouais. Moi je trouve ça compliqué. Lille, je pense que c'est pas rattrapable, et vu qu'on se fait courir derrière, il y a une pression, je pense, sur le vestiaire qui est un peu particulière en ce moment, et on n'arrête pas de dire que Lyon est spécialisé de défendre le championnat, mais sur les dernières années, sur les 10 dernières années, c'est pas si vrai que ça, et je pense que la troisième place n'est pas assurée, et il va falloir continuer à être impliqué comme l'ont été certains joueurs ce soir, comme Aouar qui a fait un très bon match, vous l'avez dit. Depay, il y a eu du mieux. Moi, j'ai trouvé la rentrée de Traoré intéressante. Il a lâché une super balle pour Cornet.
Pour une fois, ouais.
Je trouve qu'il est très bien dans l'axe quand il est en contre. Plus que sur l'aile, quand il fait toujours ses foutus crochets sur le pied gauche qui trompe plus personne, c'est insupportable. Et puis Terrier, c'est vraiment la bonne nouvelle.
Il aura mis du temps à s'adapter, hein. Mais au final, j'ai l'impression que depuis janvier, il a pris ses repères, il a pris ses marques, il est bon.
C'est ça.
Et ça, il confirme qu'il est un très bon joueur. Après, est-ce qu'il a en lui le potentiel d'être un des tauliers lyonnais? D'un Lyon, c'est-à-dire d'un Lyon qui marche en pleine bourre, qui joue les premiers, vraiment la première ou la seconde place, ça je sais pas. Mais en tout cas, là, ce qu'il faut dire, c'est qu'il en rend de très fiers services. Et chapeau à lui.
Et vivement la Ligue, fermée, hein, qu'on voit un grand Max Cornet aussi, parce que il est bon qu'en Ligue des Champions, lui, c'est pas fou.
C'est pas vrai. Non, mais c'est pas dit que Lyon, il soit dans la Ligue fermée. C'est un peu le problème.
Non, mais Cornet,
en revanche, il y a un truc sur lequel j'aimerais bien avoir ton expertise, toi qui as peut-être connu ça d'ailleurs au cours de ta carrière, Ludo, mais est-ce que toi, t'as déjà connu cette situation de vivre une fin de saison avec un entraîneur qui a déjà annoncé son départ, dont les joueurs savent que le départ est acté pour la fin de saison, justement. Est-ce que tu penses, comment ça peut jouer ça pour la fin de saison de l'OL, justement?
Honnêtement, j'en ai aucune idée, parce que j'ai jamais vécu cette situation.
Merci Ludo, c'est pour ça que
t'es là. Non, mais t'as toujours dans l'idée qu'un entraîneur va pas rester. Mais le fait que l'entraîneur l'annonce dans une situation aussi importante, 6 matchs avant la fin, je sais même pas si c'est notable dans
ça arrive avec Bordeaux l'année où le titre leur file des doigts face à Lyon, justement,
avec Laurent Blanc.
Ouais.
Donc si tu veux, moi,
allez, il dénigre le titre de Marseille.
Ah, c'était Marseille d'ailleurs, j'ai dit
dénigre le titre de l'OM là.
Je dis l'OL.
Tu dénigres le titre de l'OM.
J'ai déjà donné mon avis sur
ça. Non, je dénigre rien du tout.
Si tu viens de dire que tu souscris à la théorie comme quoi Marseille a gagné le titre en 2010 parce que la fédération française a déstabilisé les Girondins en débauchant Laurent Blanc avant. Bravo. Bravo, ouais, monsieur Villas. D'accord. Bravo.
J'attends vos insultes sur le hashtag RMC.
Non, mais je sais pas vraiment quel impact ça peut avoir sur un joueur. Est-ce que les joueurs peuvent être, est-ce qu'ils l'ont lâché? J'en suis pas certain. Est-ce que ça va les soulager? Pareil. C'est surtout la situation globale du club.
Mais qui est flou,
comment se positionner? Tu vois, un mec comme Memphis. Moi, je pense qu'attirer ce type de joueur aujourd'hui, quand t'es l'Olympique Lyonnais, c'est pas si simple que ça, finalement, d'aller chercher des joueurs. T'es toujours obligé d'aller chercher des joueurs qui sont en échec dans des grands clubs.
Ouais.
T'as réussi à l'attirer.
Parce qu'il y a le cas de Denayer aussi, hein.
T'as réussi à l'attirer, lui, et je me dis qu'avec un peu plus de management, hein, voilà, en étant un peu plus proche de lui, notamment en regardant le documentaire qui a eu lieu, je crois que c'est sur nos antennes, avec Daniel. Tu comprends le garçon, si tu sens un peu la sensibilité du garçon, tu sais que tu peux, avec quelqu'un de différent qui va faire un peu plus attention, qui va le mettre dans des meilleures conditions, tu peux tirer le meilleur de ce garçon-là.
C'est
un top joueur.
Les gars,
c'est un top joueur.
Juste pour revenir à la question que tu posais, Nicolas.
Oui,
c'était bizarre de t'appeler Nicolas un peu.
Oui, c'était un peu. Il y a ma mère qui m'engueule.
Non, mais par rapport à la question que tu posais, Nicolas. Moi, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que les joueurs, on sait que ce vestiaire, même si techniquement et tactiquement ça n'a jamais été extraordinaire, il y a quand même un lien qui est solide entre Genesio et ses joueurs, du moins une partie des joueurs. On sait que Genesio, il a eu certains en équipe de jeunes, etc. Et le deuxième point, c'est que j'ai l'impression, enfin moi en tout cas, si j'étais Jean-Michel Aulas et que je voulais faire les choses bien, chose qu'il ne fait pas depuis quand même un petit bout de temps, mais je pense que ça a dû lui traverser l'esprit, eh ben c'est très simple, la carotte, hein. La carotte, c'est, écoutez, il y a ceux qui vont vouloir partir, ben peut-être que nous on voudra pas vous vendre, et vous avez tout intérêt à ce que le club soit en Ligue des Champions, parce que il y en a qui auront pas de bonne sortie. Donc qu'est-ce que vous voulez pour la saison prochaine, jouer l'Europa League ou jouer la Ligue des Champions? Donc bougez-vous le cul et qualifiez le club en Ligue des Champions. Et je pense que ça joue aussi quand même un petit peu, parce que quand tu regardes en fait les joueurs au final, à part allez, Ndombele, qui aura des belles offres, on le sait, parce que même si je trouve qu'il est un petit peu surcoté par rapport à ses prestations des derniers mois, quel joueur de cet Olympique Lyonnais est sûr de trouver une porte de sortie de prestige à la fin de la saison?
Denayer,
ah, mais Denayer vient d'arriver, il restera.
Ouais, mais les gars, si demain t'as une grosse offre qui vous dit, imaginons que Lyon n'aille pas en Ligue des Champions la saison prochaine.
Ok, Denayer,
rien ne t'empêche d'avoir une belle offre.
Je pense qu'il a un club de niveau Ligue des Champions plus, qui a plus de budget Lyon, etc., qui peut lui faire une offre. Non, franchement, quel joueur, je crois qu'on peut la défendre. Qui a une hype de fou, aura des grosses.
Quand je vois la défense de United, alors qu'il fait pas partie aujourd'hui du top 4 en Angleterre, je me dis qu'il peut avoir sa place.
Est-ce que United sera en Champions League? Il a déjà été assez difficile comme ça à trouver. Tu vois, aujourd'hui, la difficulté de trouver un bon défenseur.
Non, mais surtout Ludo, ça
je crois que tu l'as, tu le gardes.
Je réponds la question. Mais attends, qui a une valeur marchande?
Non, c'est pas qui a une valeur marchande, c'est quel joueur de l'Olympique Lyonnais est sûr d'avoir une offre d'un très gros club européen qui sera en Ligue des Champions l'année prochaine? À part Ndombele qui a une belle cote. Je ne vois pas.
La question commence à se poser par rapport à son niveau de forme et aussi par rapport à la visite médicale avortée à Liverpool.
Donc qui a pas,
t'auras des 10 millions par ci, 12 millions par là.
L'histoire de Liverpool, c'est aussi une grosse histoire d'oseille, hein.
Les gars, juste pour conclure là-dessus, c'est dans l'intérêt de tous les joueurs de se défoncer pour que Lyon soit en Ligue des Champions, parce que à la fin de la saison, pendant le mercato, personne ne sait ce qui va arriver.
Guillaume, donc, tu voulais dire
autant ils sont devant rester à Lyon.
Guillaume.
Ouais.
Ouais, vas-y, t'as dit un truc qu'on t'a pas entendu, pardon.
Bah, je pense surtout que Ndombele, il va partir, ok, peut-être qu'il sera bien vendu, et encore, je suis pas sûr, si on se qualifie pas en Ligue des Champions, ça va être une occasion pour le payer moins cher. Ou pour qu'Olas le fasse rester, parce que où est-ce qu'il va être titulaire, où est-ce qu'il va avoir du temps de jeu s'il part, quoi, dans un top club. Moi, je le vois pas titulaire à City ou un club anglais ou
mais
autre,
après, enfin, moi la question je vais la poser différemment, mais pourquoi vous voudriez que Lyon vende forcément des joueurs à des top clubs? Si demain ils ont une offre d'un West Ham pour un joueur, une offre d'un club anglais, je dis club anglais parce que c'est eux qui payent le plus aujourd'hui, mais voilà, ouais, le joueur peut aussi partir parce qu'il a un projet financier qui est intéressant, voilà.
Bien sûr, mais après moi
je suis un romantique, donc forcément j'espère des gros clubs, parce que West Ham c'est
Si t'es un romantique pour faire des beaux cadeaux à ta meuf, vaut mieux signer dans un gros club avec
des
gros chèques.
Mais bon, pour ceux qui aiment les
joueurs, tu veux pas West Ham, quoi.
Non mais ça dépend, enfin.
Non mais pour ceux qui aiment les Speedy Gonzalez, ça sur le côté, Cornet arrivera à le vendre entre 10 et 15, Bertrand Traoré, tu peux aussi le vendre.
Mais
aussi.
Est-ce que c'est le joueur que tu as envie de garder, Cornet? Est-ce que toi t'as envie de le garder, Mathieu Cornet?
Mais non, pas le garder.
Voilà.
Non,
moi je te parle des joueurs qui peuvent potentiellement faire l'ossature de l'Olympique Lyonnais de la saison prochaine.
Je viens de te le dire.
Non mais on est d'accord là-dessus, mais ils ont tout intérêt à ce que le club soit en Ligue des Champions. Peu importe quel sera leur
avenir. Là on prend pas forcément en considération la volonté des joueurs non plus.
Écoute, moi, si tu joues le barrage de Ligue des Champions, il y en a un paquet. En prenant, Lopez, lui, il est en train de prolonger, donc lui va rester.
Denayer,
c'est essentiel. Denayer, il faut le garder. Dubois, faut le garder. Fernand Mendy, il faut le garder.
Mendy.
Aouar, Ndombele, je vends. Fekir, je vends. Traoré, je vends. Cornet, je vends.
Et voilà. Et Memphis, Dembélé, tu gardes.
Memphis, je garde. Dembélé, il vient d'arriver, tu le gardes. Aouar, faut garder aussi. Et puis, t'essayes de construire autour de ça.
On se retourne, ouais. Et puis il y a quand même des petits jeunes qui pointent encore le bout de leur nez dans le centre de formation. Il y a quand même 2-3 joueurs. J'entendais Edouard G en parler avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a encore des.
Mais quand tu peux pas aller chercher le PSG, il faut aussi savoir éteindre la concurrence sur le marché français. C'est-à-dire que Lyon aujourd'hui.
Ah ce qu'ils ont fait, Ludo.
Où est-ce qu'ils vont chercher les bons joueurs
l'année dernière?
Où est-ce qu'ils vont chercher les bons joueurs français?
L'année dernière, ils font signer Léo Dubois et Martin Terrier avant tout le monde. Alors que c'était des joueurs, tu vois, Marseille, Lille,
Saint-Étienne,
étaient dessus.
Ndombele, c'est quand même bien.
Oui,
en France, si aussi un club qui est attractif pour les joueurs, des très bons joueurs de Ligue 1 français, c'est Lyon.
Non, mais ils ont fait des bons joueurs de Neuer à l'étranger, mais c'est vrai qu'ils ont aussi fait des bons coups en France.
Quand tu peux plus concurrencer les clubs à l'international, t'essayes de faire venir les 3-4 meilleurs, les révélations françaises
c'est
cette année.
Parce qu'au moment où ils font signer Martin Terrier, rappelle-toi, il était en feu, hein, à Strasbourg. C'est après, quand ils annoncent son transfert, qu'il plonge un petit peu, que ça lui plombe sa saison. Léo Dubois, je pense que n'importe quel autre club de Ligue 1, mis à part le Paris Saint-Germain, aurait voulu signer l'année dernière aussi. Là, ça m'étonnerait pas, par exemple, j'ai entendu 2-3 rumeurs qui prennent le petit Houdin. Tu vois, je pense qu'ils font vraiment le boulot sur le marché français.
Guillaume.
Oui, mais si je peux dire un truc. Moi, je pense que vraiment pour l'année prochaine, ce qu'il faut à Lyon, c'est un ou deux mecs qui ont vraiment de l'expérience et qui n'ont pas les cannes complètement cramées. Parce que les jeunes, c'est super.
Il faut quelqu'un pour faire la paire avec Denayer.
Les gars, il y a Lucas Touzard qui est en ce moment en zone mix. On va l'écouter en direct, le milieu de terrain de l'OL.
Vous êtes un fan tactique.
Pour cette période, c'est pas facile de tous les jours de travailler dans un climat serein à l'entraînement. Donc là, on va dire qu'il faut pas se relâcher, mais on va passer une semaine un peu plus tranquille et ça fait du bien.
Comment vous expliquez les 15 dernières minutes pour être un peu plus délicates?
Je pense qu'ils ont poussé en fin de match. C'était une équipe qui est capable. Même en étant mené, ils ont déjà renversé plusieurs fois le score et ils ont réussi à revenir dans plusieurs matchs. Donc je pense qu'ils ont tout donné à la fin. Donc peut-être on a un peu pêché physiquement, ce qui est dû, ce qui peut expliquer ça.
Rien n'est simple, vous gagnez, mais rien n'est simple.
Rien n'est simple. C'est vrai que à la fin c'est malheureux. C'est comme ça. C'est le foot. Ça fait partie des gestes. Voilà, j'ai essayé d'arrêter le ballon. Malheureusement, il va dans le but. C'est comme ça. C'est parti. C'est malheureux. J'aurais tout connu cette saison, les rouges, les contre son camp. Voilà. C'est comme ça. Il faut le prendre avec le sourire tant qu'il y a la victoire. Même s'il n'y a pas eu de conséquences. Hein.
Lucas, quand on avait vu le match contre Dijon et même à Nantes la semaine dernière où c'était compliqué, et ce soir, il y a quand même une grosse différence dans le jeu genre, en général.
Oui, il y a eu du mieux dans les, je pense déjà dans les attitudes et je pense que ça découle derrière après dans notre jeu. On a fait bien le job. Je pense qu'on a fait les efforts ensemble et voilà, on l'a vu et on le voit encore plus dans des matchs à haute intensité comme il y a eu en Champions League cette semaine. On voit que tous les joueurs, toutes ces équipes-là courent et font les choses ensemble et on voit qu'ils sont récompensés comme une équipe comme l'Ajax et voilà. Le coach nous l'a dit, c'est sur quoi on doit progresser. Et puis je pense que ce soir ça a été plutôt bien de ce côté-là. Maintenant, faudra continuer pour enchaîner.
Voilà, Lucas Touzard, ouais, t'as raison. Ouais. En direct, en zone mix, victoire de l'OL de Buzyn face Angers. Guillaume, avant de te quitter, ouais. Tu disais t'étais en romantique. On va te faire un cadeau ce soir, Guillaume. On t'offre deux places de ciné pour aller voir Just Gigolo. Voilà, la nouvelle comédie avec Olivier Barou et avec Kad Merad également.
Et t'as pas le droit de lire filer. T'as pas le droit de lire filer.
Ouais, tu es obligé d'aller le voir.
Ouais.
Ne raccroche pas, Adrien va s'occuper de toi au standard. Merci,
en tout cas. Merci,
Guillaume. Bonne soirée, Guillaume. À bientôt. Accueillons Arthur, autre supporter lyonnais qui nous a appelé au 32-16. Il est en direct avec nous dans l'after. Bonsoir, Arthur.
Bonsoir, Nico. Bonsoir, l'équipe.
Salut, Arthur.
Il a du soleil dans la voix, Arthur. Il est heureux.
Elle est content.
Et effectivement, écoutez, ça fait plaisir. Après, j'étais pas super soucieux parce que comme toutes les séries, il fallait bien que ça finisse à un moment, ces trois défaites d'affilée, mais bon. Voilà, ce match, il m'a paru maîtrisé, il m'a paru plutôt correct. Donc, même si, et ça c'est à noter, ce qui est plutôt rare, c'est qu'ils ont fait une grosse bourde à la fin et ils ont pas complètement perdu le contrôle parce que ça aurait pu très vite virer au calvaire.
C'est intéressant ce que tu dis, effectivement, ouais.
Bon, il restait que 3 minutes, hein, les gars.
Ouais, mais t'as pas. Non, mais t'as pas. Non, mais ouais, mais Ludo, l'action après le but, qu'est-ce que c'est? L'action après le but, c'est Ndombele qui déborde sur le côté, qui fait un petit pont, et t'as toute l'équipe qui monte et qui a, enfin, t'as une vraie attaque de tout le bloc équipe. Donc oui, c'était une réaction qui était intéressante. Après, est-ce qu'on peut en tirer des grandes conclusions? Non. Et je te rejoins.
Voilà. Moi, je suis franchement content de mon équipe. Pour ce qui est des recrutements l'année prochaine, franchement, à part dire qu'il faut un autre défenseur que Marcelo, j'ai pas vraiment d'idée.
Non, mais j'aimerais, tu vois, moi, que l'OL renoue avec la fibre sud-américaine. Tu sais, les grandes années lyonnaises, la fibre brésilienne, la fibre... Tu vois, c'est pour ça que le fait de prendre un entraîneur sud-américain, on en parle, notamment avec Gallardo. Ouais. Je trouve que, voilà, il s'est passé des belles années. Il y a beaucoup de sud-américains qui gravitent autour du club. Et je trouverais ça assez intéressant, l'idée de faire revenir quelques sud-américains. Ça fait partie de l'ADN un peu. Ça fait partie de l'ADN.
D'avoir un entraîneur
ça peut aider.
Imagine que Gallardo te ramène Maidana pour jouer avec Donner. t'as une charnière de malade.
Bien sûr que t'as plus de chance en ayant Pelissier ou Genesio de trouver des Brésiliens, bien sûr.
Pourquoi tu dis du mal de Christophe Pelissier?
Tu sais quoi? Alors je vais te dire.
C'est quoi ce tag gratuit sur Christophe Pelissier?
S'il y a un entraîneur en Ligue 1 qui allait prospecter dans des pays.
Exactement.
Et d'ailleurs qui a essayé de relancer Ganso. Qu'est-ce que tu dis comme
Non, mais en plus. Non, mais Pelissier, déjà. Pelissier,
me barrer.
Non, mais Pelissier, c'est Amiens, c'est la maison du whisky, tu touches pas. Tu touches pas, mon pote. C'est interdit. Et puis, non, mais en plus, Nico a raison. Pelissier, s'il y a un mec qui regarde un petit peu au-delà de la Ligue 1, c'est lui et son
staff. Quand tu lâches un peu de fil, un peu d'appât, comment ça mord?
Mais c'est franchement, c'est pas
mal. Mais c'était gratuit parce qu'en plus, c'est un des meilleurs entraîneurs français, Pelissier. Donc,
mon Dieu.
C'est gratuit. Non, mais non, en Ligue 1, c'est pas un des meilleurs entraîneurs français. Eh oui.
Non, mais c'est vrai, en plus, c'est pour le coup. C'est de la provoque, ce que tu dis.
Oui, c'est pour t'embêter. Je sais que tu l'aimes beaucoup.
Mais non, mais c'est même pas le fait de l'aimer. C'est quoi? Non, attends. C'est pas une fête de l'aimer. C'est que, moi, je te le dis.
C'est un très bon entraîneur.
Il y a beaucoup de mecs, il allait regarder, parce qu'il m'en a parlé aussi. Il allait voir au Portugal certains mecs qui se sont pas faits.
Je te dis juste que c'est quand même plus facile. Quand t'as un entraîneur qui est là-bas en ce moment et qui connaît bien le terrain, c'est quand même plus simple de convaincre, des joueurs de venir.
Attends, voilà, et je vais aller plus loin que ça. Gallardo, il connaîtra certainement mieux le marché sud-américain et les compétitions sud-américaines qu'un Pelissier, je te l'accorde, qu'un Bruno Genesio ou qu'un Laurent Blanc, puisqu'on parlait de lui également.
Et mais la Ligue 1 et la Ligue 2, est-ce qu'il connaîtra aussi bien?
Qui ça?
Gallardo. Ça, on sait pas, hein.
Par rapport à quoi tu dis ça?
Non, mais c'était par rapport à, je sais pas, à Genesio, à Pelissier.
Ah oui,
Et le National, et Chambly. Le club de Ludo.
Elle va savoir.
Ouais.
Arthur.
Ouais.
Voilà.
Dis-moi tout.
Non, mais tu nous disais pour le recrutement, Arthur. Toi, t'as pas d'idée.
Dis-moi tout.
À part le défenseur, toi. Moi, je te pose une question.
Tu t'appelles Arthur, dis allez, les gars.
Non, mais je pose une question, Arthur, en tant que supporter lyonnais. Si tu perds Nabil Fekir, qu'est-ce que t'aimerais faire de cet argent-là? À quel poste recruter? Plusieurs joueurs? Reprendre une star? Ça serait quoi ton envie?
Question parce que des bons joueurs du niveau qu'a eu Nabil Fekir, pas son niveau de cette saison, aujourd'hui ça coûte combien? 80, 90 millions? Et à combien on va le vendre Fekir?
Ah, Fekir, si tu le vends 40 là, avec sa, vu sa saison 40-50, t'es bien, hein.
Bah, c'est ça. Donc, du coup, avec 40-50, on achète quoi aujourd'hui?
Ouais, avec un peu. Et franchement, ces dernières années, on peut quand même faire. S'il y en a un qui fait bien son taf là-bas, c'est quand même Florian Maurice.
Oui, ça
on est d'accord là-dessus, on est assez unanime là-dessus. Donc, honnêtement, t'es un peu gourmand là. Pour 40-50 millions, tu peux quand même trouver. Quand t'as 20 millions, tu peux trouver deux bons joueurs à 20 millions. Quand t'as 50, tu peux trouver deux bons joueurs aux alentours de 20 millions quand même.
Est-ce que non mais alors, la question, je vous la pose autrement. Est-ce que vous miseriez sur un autre créateur, même profil que Nabil Fekir? Vous laisseriez les clés totalement du camion à Oussem Aouar qui t'a changé de système pour investir sur d'autres postes? Ça va se poser la question.
Oui, mais alors après la question elle va se poser avec le coach.
Voilà, exactement.
Enfin, c'est pour ça que c'est important aussi. Tant que t'as pas cette réponse-là, tu sauras pas.
Mais
c'est ce que disait Ludo. Florian Maurice, ça fait déjà 6 mois qu'il bosse pour cet été.
Il savait
pas si Genesio allait rester ou pas. Les mecs anticipent aussi.
Et Arthur,
dis-moi,
qu'est-ce qui devient Diop?
Comme dirait Daniel Riolo, il est dans le placard de la cave, non?
Parce que quand je vois Lucas Touzard, j'ai rien contre Lucas Touzard, hein, j'ai même plutôt un a priori positif sur lui.
Dans une cave,
mais
dans la malle, avec
je me demande,
sur la malle.
Quand je vois la méforme qu'a eu Oussem Aouar et même un petit moment Tanguy Ndombele, quand je vois que Lucas Touzard rentre encore en cours de jeu, je comprends pas qu'on le voit pas, ce joueur qui me semble être quand même un très bon joueur.
Je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il mériterait clairement qu'on tente, quoi.
Un peu plus sa chance au moins.
Bah ouais, il mériterait, je suis tout à fait
d'accord. Il m'avait fait très belle impression cet été pendant les matchs de préparation lyonnaise, on les avait couverts dans l'after de l'été. Les peu de fois je l'ai vu en Ligue 1, donc c'est vrai que ça n'a pas forcément été régulier, mais tu sens que c'est un joueur qui a du ballon. Il est jeune, ça pour moi c'est un joueur, j'espère que le coach qui arrivera l'année prochaine prendra la peine de regarder ce que ça vaut, parce que c'est quand même un bon petit joueur.
Arthur, merci d'avoir été avec nous.
Avec plaisir, les
Bonne
gars.
Bonne soirée, Arthur. Salut. Ciao, ciao.
Bonne
merci
soirée,
pour tes
ouais.
idées, Arthur. Hein.
Bravo.
Ah ouais,
bravo
parce
pour
que
la qualité
pas,
des interventions.
Hein.
Dites-moi tout.
Non, mais jamais fait. Pas de cadeau, hein, pour Arthur.
Non, c'est bon. Pas déconner non plus. Victoire 2-1, donc, de Lyon ce soir face à Angers. Et puis, dans quelques instants, on va revenir sur la victoire de Dijon 3-2 face à Rennes. On va écouter Olivier Létang, qui était très énervé en
Furibar.
Ah, il était pas content.
Mais
il
y a
quoi, Létang?
Oh,
ça me fait plaisir. Supporter de Dijon, supporter de Rennes, on vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live, bien entendu, avec Jonathan Macardy et Ludovic Obraniak. Et puis, supporter de l'OM, on vous attend aussi au 32-16. Pensez-vous, comme Bounassar, que Marseille est capable de faire un 6 sur 6, 6 victoires pour les 6 derniers matchs? C'est ce qu'a dit Bounassar. La semaine d'avant, déjà, elle avait annoncé un 7 sur 7. Bon, il s'était planté pour le 7. Mais là, il croit 6 sur 6.
Ben, on va en parler.
À tout de suite au 32-16.
RMC. L'After Foot, Nicolas Villas.
Compagnie de Jonathan Macardy et de Ludovic Obraniak, je peux vous dire qu'il y a de l'expertise, y compris pendant la pause dans l'after.
On en a appris des belles.
Premières affiches de la 33e journée de Ligue 1.
En air.
Oui, bien sûr, on est là. Tu
sais, le fou merde en plus, le seul qui ne suis pas marié en plus, c'est moi. Donc.
Bah non, mais nous, on n'a rien dit, nous. Lyon qui a battu Angers 2-1 et puis victoire de Dijon également 3-2 face à Rennes. On va s'intéresser à ce match justement entre Dijon et Rennes. Troisième match d'affilée sans défaite pour Dijon. Deux victoires d'ailleurs dans cette petite série pour les Dijonais. Alors on le disait, Dijon qui est barragiste, qui est 18e. Dijon qui revient à 4 points d'Amiens et de Monaco qui sont 17e et 16e plutôt. Et Dijon qui prend 4 points d'avance sur Guingamp qui est 19e et 5 points d'avance sur Caen qui est dernier. Tiens, on va écouter, je vous propose d'écouter Olivier Létang, voilà le président, le directeur général du Stade Rennais. Sixième match d'infilée sans victoire en Ligue 1 pour le Stade Rennais. Il est très très inquiet, Olivier Létang. Colère froide de la part du dirigeant du Stade Rennais.
La colère, elle peut être qu'après nous-mêmes. Moi, je parle surtout d'un match, et notamment une première mi-temps, qui a été scandaleuse, et je pèse mes mots, indigne d'une équipe professionnelle. Et aujourd'hui, je suis très, très, très inquiet pour le club, pour ses supporters, parce qu'on est sur une phase qui est très dangereuse. Au-delà de la finale qui a lieu dans une semaine, et je dois dire que si je suis le Paris Saint-Germain ce soir, je suis très, très tranquille.
Voilà, et on rappelle, hein, Rennes qui est effectivement à une semaine de cette finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Olivier Létang, à qui on a également posé la question de savoir si les Rennais, qui sont 11e au classement ce soir avec 43 points, sont en train de lâcher le championnat. Et là encore, il est colère, Olivier Létang.
Vous savez, si les joueurs ont abandonné le championnat, c'est inadmissible. Inadmissible. Ils sont payés, ils sont rémunérés pour faire leur métier, pour gagner des matchs et pour donner. Donner pas simplement au club, mais donner aussi à tous nos supporters, toute la communauté que j'évoquais tout à l'heure, qui vient au stade, qui a envie de vibrer. Et au nom de quoi on ne devrait plus jouer pour gagner des matchs. Je parlais effectivement d'impact, on est 11e je crois ce soir. 11e, si on continue comme ça, 6 matchs sans victoire, il en reste 5, on va finir combien? Et il y a des impacts aussi, il y aura des impacts pour les joueurs, forcément. Et il y a aussi des impacts pour le club et notamment des impacts économiques, parce que vous savez qu'en fonction du classement final, et ben le montant des droits télé reversés n'est pas du tout le même. Et aujourd'hui, effectivement, je suis particulièrement mécontent, voire furieux.
Voilà, Olivier Létang, donc la réaction après cette défaite 3-2 à Dijon pour le Stade Rennais. C'est vrai qu'il y avait, il y a encore peu de temps finalement, il y avait une vraie hype autour du Stade Rennais, notamment après cette épopée entre guillemets en Coupe d'Europe. Ils sont allés quand même assez loin, les Rennais, ça a été historique pour eux aussi.
Épopée.
Mais c'est vrai qu'en en championnat, ils sont en train de glisser finalement les Rennais. Vous comprenez la colère d'Olivier Létang ce soir?
Il est dans son rôle, c'est le directeur sportif. Rennes cette année c'est up and down, donc forcément lui il vient en tant que directeur sportif. T'as pas gagné depuis 6 matchs je crois, ou
depuis 10 mars t'as pas gagné.
6 matchs de Ligue 1 sans victoire.
Et il vient, il fait le boulot, c'est une piqûre de rappel avant la finale en disant voilà messieurs, nous qu'on soit 8e à la fin du championnat.
Il est président délégué, manager général, hein, il est pas juste directeur.
Ouais, enfin il est dans son rôle, voilà. Il vient, ils ont fait preuve, si tu regardes le match, ils ont fait preuve d'une trop grande suffisance, notamment en première période.
Ils ont pas été bons.
Et c'est tout à fait normal que tu finisses. Il y a des enjeux économiques aussi pour le Stade Rennais.
Oui, bien
que
sûr.
Tu finisses 8e ou que tu finisses 12e ou 13e, l'histoire elle est pas la même.
Bien sûr.
Et puis quand t'as été capable d'émerveiller les gens pendant notamment cette période d'Europa League,
on a pris.
Mais c'est pas grave. Même contre le Betis, Arsenal, l'aller c'était bien. Voilà, on s'est enflammé. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas enflammé du côté du Stade Rennais. Ça nous a fait du bien, un grand bien. Même nous, spectateurs neutres. Nous a fait du bien de s'emballer pour ce club un petit peu qui est moribond et qui mais là encore une fois dans le Money Time ça pêche quoi, tu vois, c'est récurrent. Mais je suis content qu'il y ait au moins quelqu'un aux manettes et qui dise ça suffit maintenant, il y a une finale à préparer, il y a la fin de championnat à finir et tout le monde sur le pont quoi.
Pourquoi tu dis que t'es pas d'accord?
En fait sur
c'est
le
une piqûre de rappel avant un gros match en plus
sur la forme, pourquoi pas? Ça montre, tu vois, c'est un petit coup de vis en termes d'autorité symbolique, c'est bien. Après, je suis d'accord, le match, ils sont pas bons. Il y a pas les ingrédients qu'il faut en première mi-temps. Les matchs précédents étaient pas bons non plus. Mais je leur mets quand même une petite circonstance atténuante, c'est que d'une part ils ont joué beaucoup de matchs cette saison avec l'Europa League, et d'autre part quand tu regardes les blessés, notamment Da Silva qui a manqué des matchs, t'as eu Clément Grenier qui a manqué des matchs aussi, et quand tu vois que Julien Stéphan a son 11 et qu'il a pas non plus trop les moyens de faire tourner, et que de toute manière j'ai pas l'impression qu'il aime vraiment faire tourner au maximum, qui se base sur 14-15 joueurs. J'ai l'impression qu'ils sont un peu tous sur les rotules et que ce coup de mou était peut-être un petit peu prévisible, parce que je pense qu'ils ont perdu beaucoup d'influx à la fois physique et à la fois psychologique avec l'Europa League, et que c'était pas une équipe qui était, on va dire, programmée pour ça. Alors je retrouve peut-être beaucoup de circonstances atténuantes. Ce que je vois, c'est que bon, en championnat, c'est vrai, il y a une différence de plusieurs millions d'euros que tu termines dans la première partie du tableau ou dans la seconde. Mais l'objectif, maintenant, il est clair, c'est la finale de la Coupe. Il y a que comme ça qu'ils vont se qualifier en Europe.
C'est une équipe qui a trouvé une certaine cohérence, comme tu le dis, dans son 11. Dès qu'il manque un ou deux joueurs, tout de suite, la machine, elle s'enraye. Là, il manquait Ben Sebaini, qui, mine de rien, on a pu dire beaucoup de choses sur lui.
Non, il a fait une bonne saison.
Il y avait pas Mécher.
Il y avait pas
Bourigeaud sur le banc.
Voilà, c'est ça. Et pour moi, Bourigeaud, il est indispensable dans cette équipe. Mine de rien. Parce que c'est un garçon qui sait tout faire, c'est un garçon qui sait garder le ballon, qui sait faire jouer les autres. Et quand t'as les Solis devant qui en font un peu trop, et ben lui, il est là aussi pour tempérer.
Il y a deux joueurs qui ont fait une belle saison avec Rennes, c'est le haut milieu, là, Grenier et André. Je les trouve un petit peu émoussés aussi, par rapport à ce qu'il y a quelques mois, par rapport au mois dernier, notamment Benjamin André.
Mais ils sont mieux quand ils sont les trois. Ils sont mieux quand Bourigeaud est intégré avec eux.
C'est vrai aussi. Mais j'ai l'impression que notamment du côté d'André, il pioche un petit peu en ce moment. Et c'est quand même la pièce maîtresse du milieu de terrain rennais, quoi. Donc c'est pour ça, le coup de gueule, je comprends, mais il y a quelques circonstances atténuantes à mon sens.
Accueillons Arthur, supporter rennais, justement, qui nous a appelé au 32-16.
Comment Arthur?
Eh oui, c'est la soirée d'Arthur, effectivement. Salut Arthur. Ça se trouve, c'est le
bonsoir,
même.
Bonsoir,
hein.
Messieurs. Bonsoir.
Non. Dites-moi tout.
Salut Arthur.
Eh bien écoutez, oui, je suis plutôt d'accord avec quelques arguments de votre part. C'est vrai qu'il y a un petit coup de mou. Je suis d'accord avec ça. Après, voilà, moi, je suis plutôt rassuré. Je suis plutôt confiant. Je me fais pas trop de soucis. On a déjà la tête à la finale. Tout le monde le sait. C'est que on se qualifiera que via la finale. Je dénigre pas du tout cette équipe de Dijon qui a beaucoup de mérite. Mais voilà, il y a un mois et demi, on perd jamais contre Dijon. Et les joueurs, s'ils ont l'envie d'aller gagner contre Dijon, ils l'auraient envie. Ce soir, clairement, ils étaient ailleurs. Ils ont qu'une envie, c'est de gagner ce titre. Et puis, je pense que, mine de rien, il y a un petit peu de pression du côté de la direction. Je pense que quelque part,
Toi, Arthur, je te coupe, mais justement, ça t'inquiète pas de te dire, les mecs ont pas la tête, ils ont la tête à la finale, il faut gagner ce match. Enfin,
Non, parce que ce sont des compétiteurs, ils savent ce qu'ils veulent. En ayant vu les matchs de Séville et Arsenal, on sait que si on joue de la même manière avec le couteau entre les dents face à Séville et face à Arsenal à domicile, on est capable de gagner contre Paris. Et de toute manière, si on veut gagner cette Coupe de France, il faut gagner contre les plus belles équipes. On a déjà éliminé le deuxième, Lille, Lyon le troisième. Paris, pour moi, est jouable. Rennes, on va pas les reconnaître en finale. Je pense que ce serait une équipe totalement transcendée et elle va faire plaisir à voir. Et j'espère, en tout cas, et on dira que Rennes a été remarquable lors de cette finale. C'est tout ce que je souhaite. C'est une équipe qui, pour moi, a de la gueule et que, voilà, aujourd'hui, clairement, ils s'en fichent. Enfin, ils sont passés à autre chose.
Au-delà de ça, Arthur, bien sûr, le fait qu'il y ait la finale, ça joue, et Olivier Létang, il le sait très bien. Mais si tu veux, cette équipe, elle a créé quelque chose. Lui, il a envie de surfer sur ça. C'est-à-dire que le stade rennais, c'est la belle endormie, à l'image de Bordeaux depuis quelques années, où on attend à chaque fois un sursaut. Le sursaut ne vient jamais. Et là, cette saison, t'as déclenché quelque chose. T'essayes, en tant que manager général, t'essayes de surfer là-dessus. Et tu ne peux pas accepter, quand tu as fait ces niveaux de prestations, tu peux pas accepter de redescendre et d'être médiocre comme ils l'ont été en première période. Donc moi, je trouve que c'est plutôt bien de sa part de venir, de dire les choses, dire voilà, je suppose peut-être qu'en interne, il a un autre discours, mais en tout cas, c'est une piqûre de rappel qui me paraissait nécessaire avant la finale.
Bien sûr, il y a une prise de conscience tout de même, il y a une certaine maturité et expérience qui a été prise au fur et à mesure des matchs cette année. On est l'équipe qui a joué le plus de matchs dans le championnat français.
Oui.
On est on a des joueurs qui
et t'as pas
qui
un effectif qui est si long que ça, quoi.
Ouais, bien sûr. Voilà, c'est ça. On n'avait pas un effectif taillé pour aller chercher plus loin que aujourd'hui. Déjà, c'est moi la belle endormie. Je sais pas, parce que je pense qu'on n'a jamais été belle. Je pense qu'on est au démarrage de quelque chose aussi. À ce niveau-là, on a été belle, on a été beau à notre niveau, on a été beau au Stade Rennais, équipe toujours qui termine. Voilà, comme disait Atem El Arfa, sponsoring, je sais plus comment, mais bref, on terminait tout le temps 7-8e. Rennes aujourd'hui, on est peut-être en train de passer dans un autre cap et les temps, il sait très bien ce qu'il veut, il est très très humble et très réfléchi dans ses propos. je pense qu'il y aura un recadrage quand même avant le, avant cette finale. Je pense qu'il y aura
Arthur,
un recadrage.
Arthur, je te coupe parce qu'il y a Jérôme Thomas qui est en train de me dire dans l'oreillette que Pinot vient d'annoncer qu'il allait filer 100 millions d'euros donc pour Notre-Dame, vous le saviez, et 200 millions d'euros pour le mercato la saison prochaine pour le Stade Rennais.
J'y crois pas. Non,
il vient de le dire dans zone mixte, les gars.
Sans déconner.
Non, je déconne.
Ça paraît surprenant.
Au final, sans déconner, pourquoi il donne pas 100 millions d'euros pour le mercato Rennais?
Moi, je t'avais dit Jérôme, elle était
mais il aurait dû, quoi.
Qui allait tout prendre au premier
degré. Autre chose, mais Jérôme, j'espère qu'il m'entend et qu'il, voilà, on espère de toute manière que cet été on aura un beau mercato, mais on, voilà, l'exemple même, c'est qu'aujourd'hui, l'argent ne fait pas une équipe et que Rennes aujourd'hui, il y a une vraie identité de jeu qui est en train de se
créer. Attends. T'as quand même fait un très beau mercato l'été dernier, t'as quand même mis un peu d'argent et t'as quand même pris des joueurs que t'as payé, hein, ils sont pas venus gratuitement.
Hein? On n'a pas dépensé énormément.
Non, je suis d'accord, mais t'as quand même été malin et t'as quand même dû débourser des petites sommes. Je te dis pas que c'est des sommes folles, mais pour acheter Grenier, Da Silva, Mbanyang, pour
Da Silva, c'était libre.
Alors pour acheter Clément Grenier, t'as quand même dû un peu. Non mais attends, vous êtes d'accord, quand t'es libre, quand un joueur c'est libre, tu penses que ça coûte rien au club?
Bon, je suis pas sûr que Da Silva soit le plus gros salaire du Stade Rennais.
Et Coco, quand t'es libre et que tu signes un club, tu demandes un peu de te faire raquer un petit peu, non?
Bien sûr, ils prennent gros ces joueurs-là.
Non, mais je suis pas d'accord. Surtout Da Silva, il avait d'autres offres. Hein. Ça a toujours été un des très bons défenseurs de Ligue 1.
Bien sûr.
Arthur, merci d'avoir été avec nous.
D'ailleurs, Marseille le voulait, non?
Non, mais non. Lyon.
Ah, d'accord.
Lyon, oui.
Arthur, bonne soirée.
Merci à vous.
À bientôt.
On parle d'un Portugais, réagis pas là.
Salut, Arthur.
Merci à vous. Bonne soirée.
Bonne finale à toi.
Quel mépris de la part de Ludo envers les petits joueurs.
Pourquoi?
Non? Il se moque de Damien Da Silva, il méprise son standing, les offres qu'il a pu avoir cet été.
Non, je sais qu'il a eu des offres de Turquie.
Je te dis simplement que c'est pas le joueur qui doit coûter le plus cher au Stade Rennais, c'est tout.
Bon. Ne serait-ce que par son poste, t'as connu ça aussi. Pas les mieux payés, les défenseurs.
Non, mais je pense quand même qu'ils ont donné une petite prime à la signature quand il a signé.
Écoute, on lui demandera.
Ah bah oui. Tiens, voilà.
On va demander
sa déclaration d'impôt et puis on saura.
Et puis, parlons un petit peu de Dijon tout de même, messieurs, avec Antoine, supporter du DFCO, qui nous a appelé au 32-16. Alors, Dijon qui avait tapé Lyon 3-1, qui avait fait 0-0 face à Amiens, et qui là s'impose 3-2 face au Stade Rennais. Antoine, salut Antoine.
Salut
Steve,
bonsoir à tous.
Salut Antoine.
Voilà, Dijon barragiste. Dijon 4 points d'avance sur Guingamp. Dijon 4 points de retard sur Amiens et sur Monaco.
On va espérer de conserver cette 18e place, ce serait pas mal. Vu la saison qu'on fait, je pense que ce serait bien payé. Parce que comparé à l'année dernière, on a quand même un jeu qui n'est pas du tout flamboyant. Mais ce soir, c'était un beau match, on a vu du spectacle, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça à Gaston Gérard. Et je pensais bien qu'on allait gagner la partie, mais je pensais pas que Rennes allait nous poser autant de problèmes. Je les voyais bien à fond dans la finale de la Coupe de France, mais bon, ils ont été performants devant le but, parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais j'ai bien aimé la réaction des joueurs qu'on n'a pas lâché.
Prochain match de Dijon, c'est à quand hein?
Ouais, c'est le match de la peur. Hein,
c'est le match de la dernière chance pour Caen, surtout. Hein.
Comment?
Ça sera le match de la dernière chance pour Caen. Hein.
Bah voilà, c'est le match de la dernière chance pour Caen. Et si on ramène les 3 points de Caen, ce sera une grosse bouffée d'oxygène pour nous, pour la fin de saison, parce qu'il nous reste encore un déplacement au Parc, la 37e. Bon, ils auront plus grand-chose à jouer.
Tu sais, en ce moment, pas contre Paris.
Et après, il nous reste 2 matchs à domicile qui sont à notre portée, Strasbourg et Toulouse, voilà. Maintenant, il faut essayer de conserver cette 18e place.
Mais toi, tu penses que c'est jouable d'aller au-delà ou pas, Antoine? T'as qu'à 4 points finalement d'Amiens aujourd'hui, hein, et de Monaco.
Bah oui, ce qui aurait été bien, c'est de concrétiser la semaine dernière contre Amiens. Tu prenais les 3 points contre Amiens, voilà, ce soir tu revenais à un point, tu leur mettais une grosse pression. Mais ils ont un calendrier qui est plutôt simple, Amiens, pour la fin de partie de saison. Donc après, il y aura un duel Guingamp-Caen, il me semble, voilà. À nous de tenir ces deux équipes-là à distance et pourquoi pas se faire un match de barrage contre 3.
La chance qu'a Amiens, c'est que pendant les 3 prochains matchs, c'est qu'on a des équipes qui plus ou moins ne jouent plus grand-chose. Ils vont jouer Nantes,
ouais.
Ils vont jouer Strasbourg. Il me semble qu'ils jouent Montpellier. C'est pas des équipes, tu vois, la saison est quasiment terminée pour
Dijon
eux.
Aussi, ça va jouer Nantes et Strasbourg.
Ouais, mais dans cet ordre-là. Ouais.
Ben, ils vont jouer là, ils jouent Caen. Après, ils jouent Nantes et Strasbourg.
On joue Caen et après on va à Nantes.
Et après, t'as Paris et Toulouse.
Ouais.
Paris,
Et on reçoit Strasbourg aussi après Nantes.
Exactement.
Moi, je sens gros comme une maison Camboire aller chercher un petit résultat contre Paris.
Quel travail de management aussi d'Antoine Camboire, parce que après avoir enchaîné toutes ces défaites, pour l'avoir vécu à Metz, je peux te jurer que quand t'arrives comme ça, tu te rapproches de la fin et que t'enchaînes les défaites, le groupe il peut se fissurer. Tout le monde se regarde en chien de faïence, tout le monde se rejette la faute. Et la force d'Antoine Camboire, c'est qu'il a réussi à garder tout le monde sous pression. On sent que cette équipe quand même. Il y a une certaine loyauté dans cette équipe. Il y a des mecs qui sont particulièrement concernés. Et sa force, c'est aussi d'à un moment donné de se dire, bah, de mettre un mec comme Florent Balmont, 38 ans, qui cristallise justement la mentalité. Et depuis 3 matchs, il revient. Et puis bizarrement, depuis 3 matchs, Dijon performe. Et ce garçon, il faut aussi des joueurs d'expérience parfois, ouais, qui connaissent la musique, qui connaissent bien le terrain et qui arrivent à cristalliser un certain état d'esprit, qu'ils se font le relais de l'entraîneur. Il est pas capitaine aussi par hasard aujourd'hui, et je trouve, alors que c'était pas une évidence sur les derniers matchs, Antoine Camboire l'avait plutôt mis de côté. Je trouve que en termes de management, c'est vraiment un chouette coup d'Antoine Camboire.
Merci à Antoine, supporter de Dijon, d'avoir été avec nous. Dijon qui s'impose donc 3-2 face à Rennes. Dans quelques instants, on va se projeter sur le match de Guingamp demain face à Marseille. Supporter de l'OM, est-ce que comme Bounassar, vous croyez au 6-6, 6 victoires pour les 6 derniers matchs de Ligue 1? C'est ce qu'il avait annoncé, le latéral de l'OM. On vous attend avec Ludo Bragnac et Jonathan McCarthy pour répondre à cette question.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Toujours avec Ludo Bragnac et Jonathan McCarthy. Vous venez de vivre les premières affiches de la 33e journée de Ligue 1. La victoire de Dijon 3-2 face à Rennes. Lyon qui s'impose 2-1 face à Angers. Puis demain 17h, Guingamp-Marseille. Balotelli qui sera suspendu, au Campos qui est incertain du côté de l'OM. Tiens, rappelons le calendrier de l'Olympique de Marseille d'ici la fin de saison. Les 6 derniers matchs de Marseille. Ils iront à Guingamp demain. Ensuite, match à domicile face à Nantes. Déplacement à Strasbourg. Match à domicile face à Lyon. Déplacement à Toulouse. Et pour terminer, match au Vélodrome face à Montpellier. Marseille, et qui compte donc 8 points de retard sur le podium. Bounassar l'a lâché, c'était après le match contre Bordeaux. Il croit au sans faute de son équipe d'ici la fin de saison. C'est court, mais intense.
Il reste 6 matchs désormais. Moi, comme j'ai dit, peut-être les gens vont me prendre pour un fou, mais je sais qu'on est capable de gagner les 6.
Alors, Bounassar est-il un fou? Croyez-vous au 6-6 pour Marseille d'ici
et
la fin?
Est-ce que la marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu? Et
on n'a pas posé la question.
Il est sympa, Bounassar, mais souvent, quand il passe devant les médias, il faudrait qu'il fasse attention à ce qu'il
fait. Est-ce que c'est aussi crédible que son arrêt de gardien la semaine dernière là,
le problème, vous y croyez pas.
En fait, je vais vous dire juste une chose très claire, qui est simple et limpide comme de l'eau de roche, qui s'appuie sur l'expérience empirique. Marseille va jouer contre Lyon. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Et il y aura Rudy Garcia sur le banc.
C'est tout.
Donc, pour gagner les 6 matchs, c'est mort.
Ok.
Non,
il a gagné combien de 0+0, le nombre de victoires, il a égal la tête à Toto contre des équipes du top 3 ou du top 5. Arrêtez un peu. Oui, vous voulez mettre une pièce dans la machine, je suis lancé, mais bon. À partir du moment où tu vas jouer contre une équipe qui est sur le podium, tu vas perdre. Ou du moins, tu ne vas pas gagner, c'est sûr.
Tu prends l'accent marseillais quand on parle de...
Mais non, je prends pas l'accent marseillais. Je te le dis, c'est tout. J'ai dit, tu vas perdre, c'est tout. Donc, les 6, j'ai du mal à y croire. Après, pourquoi pas, hein? On sait pas. Mais bon. Ça me semble très improbable.
Ludo?
Non, c'est complètement fantasmé, ces déclarations-là. Comment tu veux enchaîner 6 victoires consécutives quand t'as déjà eu du mal à en enchaîner 2 tout au long de la saison? Ça me paraît complètement hors de propos. Essaye déjà de défendre ta 4e place tant bien que mal, parce que ça va être compliqué de le faire. Mais raconte pas tout et n'importe quoi non plus.
Ils sont 5e même d'ailleurs.
Ouais, essaye d'aller chercher la 4e, déjà ça. Mais ne va pas dire tu vas faire 6-6.
Faut pas la
ramener, alors que ta saison, elle a été plus que compliquée.
Après. Moi,
je sais pas, il peut... Non, mais...
Qu'il y croit, qu'il le dise.
Non, mais...
C'est de la motivation.
On va essayer de regarder de l'autre côté de la médaille, de se dire qu'est-ce qu'il pourrait faire que Marseille gagne ses 6 matchs. Il y a quand même du changement. Apparemment, Gustavo a récupéré sa place.
Ouais, tu peux pouvoir jouer en 4-2-3-1, quoi.
Tu vas rejouer en 4-2-3-1 avec Dimitri Payet, qui, je l'ai trouvé en jambes, Dimitri Payet, contre Nîmes. Vraiment. On l'a beaucoup critiqué, on l'a beaucoup taillé. Je l'ai trouvé en jambes, j'ai trouvé précis sur ses coups de pied arrêtés. J'ai trouvé qu'il montait en puissance au fur et à mesure de la rencontre. Donc si tu comptes sur un
bon... trois passes décisives.
Ouais. Mais si tu peux compter sur un très bon Dimitri Payet, qui est quand même un petit peu un facteur X quand il est au niveau qui peut être le sien dans une équipe, pourquoi pas. Mais après, il y a quand même quelque chose de rédhibitoire pour moi, c'est que Garcia, il a montré qu'il était incapable de gagner contre une équipe du top 3, top, même top 5. Donc
il y a une chose qui te trahit, c'est que tu prends beaucoup trop de buts et que ta défense, elle est complètement perméable. Donc
deuxième pire défense à l'extérieur. Rigoles, d'ailleurs, il en a parlé à Rudy Garcia en conférence de presse. Hein. C'est la deuxième pire défense à l'extérieur après Guingamp Marseille.
Ça c'est les chiffres, il y a pas de problème, mais je pense que le retour de Gustavo va faire du bien pour donner un peu plus de sécurité, parce que ce qui ont loué donc quand il y avait ce milieu à deux avec Maxime Lopez et Morgan Sanson, c'était cette capacité à se projeter très rapidement dans les phases de transition offensive, de faire du jeu, d'aller de l'avant et d'animer un petit peu ce milieu de terrain. Mais c'est vrai que même si les deux faisaient leur boulot niveau récupération dans les phases de transition défensive, il y en a aucun des deux qui a ce réflexe, tu vois, d'aller apporter le surnom défensif auprès de la charnière centrale, qui est quand même une charnière centrale qui est très jeune. Et d'avoir Gustavo devant, tu vois, que Tchaleta Tsar et Camara et Gustavo devant eux, je pense que ça va leur faire vraiment du bien.
Bah au final, alors on est d'accord. Non mais on est d'accord.
Ah, oui.
Pourquoi tu dis non, défense, c'est pas...
J'ai dit juste oui, je suis d'accord, mais comme Gustavo a récupéré sa place. Semble avoir récupéré sa place, je pense que ça c'est une donnée qui peut changer pour les 6 derniers matchs.
OK.
Donc regardez pas comme ça.
Non mais d'accord.
Qu'est-ce qu'il y a, Ludo ?
Rien. Je t'écoute assidûment. Je suis pas convaincu, mais
tu peux le dire que t'es pas convaincu, mais tu l'adores, Gustavo, en plus.
Je te dis pas, moi le problème il est pas Gustavo, bien au contraire. Moi je suis plutôt content qu'il soit là. De là à élever le niveau de la défense, et pour moi il y a un problème majeur, c'est ton arrière gauche, puisque combien de buts concédés par faute directe ou indirecte en venant de ce côté-là. Ça me paraît compliqué, justement, t'es perméable de ce côté-là et ça t'a coûté un paquet.
Je vois pas
ce qui pourrait changer la donne.
Si Rudy Garcia avait l'idée de laisser la charnière avec Gustavo, protégé par Gustavo, de mettre Hiroki Sakai côté gauche et côté droit de mettre Bounassar, est-ce que tu trouves ça pas peut-être un peu
plus solide? Je trouverais ça mieux de mettre. Voilà. Toi, je sais que tu regrettes même Bedimo à gauche, non?
C'est quoi? Je suis désolé. Quand je vois la saison que fait à ma vie, bien sûr, quand je regarde limite, je regrette, qui je pourrais regretter? Bon, Taiwo, les gens ont beaucoup cassé du sucre sur le dos, mais c'était quand même un bon latéral. Qui je pourrais regretter? Qui on a eu?
Evra?
Ah non, De Segli, c'était quand même, Evra, Evra me parle pas de cet idiot.
Lizarazu?
Non. Qui on a eu de, Amada Djombé! Je regrette Amada Djombé, voilà.
À droite, bon
vieux temps, non?
Et jouer des deux côtés, Donc qui a eu?
Olembe, me dit Jérôme Thomas. C'est vrai que...
Je crois qu'il était meilleur qu'Amadi.
Taiwo, il l'a dit.
Non, mais Taiwo, c'était un bon joueur, faut arrêter les blagues sur Taiwo.
Il me dit juste Taiwo, il a joué à gauche, je commence pas à t'énerver.
Non, parce que là, on cherche les arrières gauches mauvais. Donc, qui cite Taiwo, je trouve ça un peu injurieux. Non, mais Jordan Amavi, sa saison, tout ça pour dire qu'il est catastrophique, Jordan Amavi. C'est plus possible. Même, je pense que même Ubochan, il ferait mieux qu'Amavi.
Aaron Mears, il jouait quoi à droite?
Ouais. Ouais, c'est pas bon. Non, mais même, Krupo-Vieza. Ah non, c'était l'autre côté, ouais. Non, mais même, ce que je veux dire, c'est que, même Ubochan, je me demande pourquoi Ubochan ne joue pas à la place de Jordan Amavi quand on voit ses performances.
Bref, ce sera demain, en tout cas, Marseille, demain 17h. Guingamp Marseille, c'est l'une des infos également de cette soirée. Il y avait du national ce soir, 31e journée. Rodez, déjà promu en Ligue 2 la saison prochaine, s'est imposé à Bourg-en-Bresse 2-0. Et alors, Chambly s'est imposé 3-0 à Concarneau. Et Chambly sera en Ligue 2 la saison prochaine. Bruno Luzzi, entraîneur du FC Chambly Oise, est avec nous en direct dans l'after. Bonsoir Bruno, merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci.
T'es pas en boîte de nuit, Bruno?
Bonsoir Bruno.
Non, je suis dans le bus, là, ça y est, on est reparti.
Et alors, vous allez fêter ça ou pas, alors?
Voilà, là, on est sur la route, donc bon, il y a du vacarme derrière, quoi. Moi, je suis devant, ça va, j'arrive à avoir un petit peu d'audition, mais ça va être compliqué.
Alors, c'est quand même assez énorme, hein, ce club de Chambly, pour ceux qui connaîtraient pas, fondé en 89, par la famille Luzzi, donc ta famille, Bruno.
Ouais.
Vous êtes parti 6e division de district fin des années 80. Vous serez en Ligue 2 la saison prochaine. C'est complètement improbable, cette histoire.
Ouais, c'est plus qu'improbable. On a démarré en 89, en dernière division de la plus basse, quoi. 5e division, c'était à l'époque. Et puis voilà, on est en Ligue 2 au bout de 29 ans. C'est vrai que ça fait un long chemin. C'est presque une vie, mais finalement, ça semble assez court, quoi. On a réussi à franchir assez rapidement les paliers.
Alors, question pratique, mais qui est d'ores et déjà importante. Vous avez gagné cette promotion avec Chambly pour la saison prochaine en Ligue 2. Est-ce que vous serez prêt, notamment au niveau du stade? Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de complications à ce niveau-là. T'as connu l'histoire de Luznac à l'époque en National également, face à qui t'avais joué. On se souvient de ce qui s'est passé avec Luznac. Est-ce que cette affaire va être réglée, tu penses, en temps et en heure?
Oui, ça va être réglé, mais après, le problème, c'est que nous, on a déjà des accords, mais c'est pas à nous de les annoncer, donc voilà, là, maintenant que la montée sur le terrain est acquise, je pense que les annonces vont être faites dès le début de la semaine prochaine. D'accord. Mais on aura pas de problème pour être abrité, voilà, on pourra jouer en Ligue 2.
Bruno, est-ce que tu peux nous rappeler le budget de Chambly?
Je crois que c'est 2 100 ou 2 2 millions cette saison. On est le 11e budget national.
Et ça va se passer comment la saison prochaine?
Bah, on sera certainement plus petit budget, mais c'est une question d'habitude puisque c'est chaque année pareil. Donc après, on fait avec. Il y en a qui ont plein d'argent et ils ne gagnent pas spécialement. Il y en a qui en ont un peu moins et ils arrivent. Donc après, c'est juste une question de bien dépenser ce qu'on a.
Ouais. Est-ce que cette promotion, elle était calculée au long terme? Alors c'est complètement inattendu pour vous aussi?
Non, voilà. Initialement, c'était on fait un club entre nous, on avec des copains, on avait joué ensemble déjà à un plus haut niveau. Voilà, on essaie d'aller jusqu'en DH, ça sera pas mal. Et puis voilà. Et puis après, chemin faisant, lorsqu'on a commencé à attaquer le N3, on s'est dit pourquoi pas. Bon, on continue, on verra. Et puis voilà, on franchit les paliers, puis on y prend goût forcément.
Comment t'expliques, Bruno Luzzi, on rappelle, entraîneur de Chambly en direct avec nous dans l'after, que Hérodez, alors qui a été promu cette saison nationale, et Chambly, alors tu le disais toi-même à l'instant, dont c'était pas prévu cette montée finalement, bah soit promu en Ligue 2 comme ça. Il y a des clubs qui sont historiques aussi en national. On peut penser à Boulogne, à Quevilly-Rouen, alors qui est pas forcément un historique, mais qui est en Ligue 2 il y a pas longtemps. Il y a Laval, il y a Bourg qui est en Ligue 2 il y a pas longtemps aussi. Comment t'expliques toi finalement ce renouveau à ce niveau-là?
Ben, je pense que déjà ça fait du bien. Enfin, il faut qu'il y ait un peu de renouveau dans les divisions, sinon après c'est voilà, il y a des équipes à ce niveau-là et certainement même au-dessus qui sont en soins palliatifs depuis des années, qui n'arrivent pas à descendre. Donc bon, c'est bien que les d'autres de temps en temps qui arrivent à rafraîchir un peu tout ça. C'est vrai que Rodez est un peu similaire à nous au niveau budget. Voilà, c'est pas non plus un gros budget. Ils ont bien bossé. Je pense qu'ils vont aller au bout au niveau du titre. Voilà, on a réussi à les emboîter au niveau de la promotion en Ligue 2. Voilà, après peut-être que les gros, entre guillemets, ont une pression supplémentaire avec la perte des statuts pro s'ils montent pas, des choses comme ça qui sont peut-être difficiles à gérer au quotidien. Voilà, nous on s'est pas mis de pression plus que ça. On voulait faire un bon championnat et puis chemin faisant, forcément, on a joué la pression jusqu'au bout.
Bruno Luzzi, entraîneur de Chambly, promu en Ligue 2 pour la saison prochaine, est en direct avec nous dans l'after. Jonathan Macardy, une question pour toi, coach.
Bonsoir Bruno, déjà, félicitations pour la montée.
Merci beaucoup.
Et question très simple et peut-être un petit peu banale, mais là, la montée est assurée. Vous allez, je suppose, commencer à travailler dès à présent sur la saison prochaine. Quel profil de joueur, idéalement, vous aimeriez recruter pour cette saison Ligue 2? Je vous parle pas de poste, mais plus des joueurs d'expérience, ouais. Vous appuyez sur des jeunes?
Des joueurs qui ont faim.
On a Ludo Bragnac, si tu veux, nous. Je peux dire qu'il mange bien. Donc.
Ouais. Ça, c'est gratuit.
Non, mais voilà, c'est important. Quand on est promu, on peut se payer certainement un ou deux noms pour dire. Mais après, voilà, cette année en Ligue 2, il y a des clubs qui ont misé sur des gens qui avaient certainement plus envie, plus rien à prouver. C'est cher et finalement ça rend pas beaucoup, donc à un moment donné il faut des gens qui ont envie, qui ont faim et qui peuvent adhérer à notre projet parce que on n'a pas grand chose quoi. Donc
vous aurez une petite enveloppe quand même.
Il faut pas qu'on se trompe de profil. Voilà.
Vous aurez une petite enveloppe quand même pour recruter?
Oui, bah avec les droits télé forcément, je pense qu'on devrait passer dans les 6 millions, donc c'est dérisoire hein, si on compare à des clubs comme le RC Lens, des choses comme ça, mais en tout cas on double notre budget, donc bah voilà, on va pouvoir essayer de monter une équipe compétitive. Après il y a des très bons joueurs en national qui passent pas au-dessus, on sait pas, voilà, c'est le football hein, parfois on ça passe pas, mais nous on les a repérés. Il y a peut-être des gens en Ligue 2 qui sont revanchards. Voilà, c'est ce genre de profil là dans un premier temps qui va plutôt nous intéresser.
Dernière question, Bruno Luzzi. Je suppose que ce soir aussi, tu as dû avoir une pensée émue et forte pour ton papa Walter qui nous a quittés il y a un an.
Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, comme j'ai coutume de dire depuis qu'il est parti, c'est lui qui nous guide. C'est lui qui a géré tout ça cette année. Voilà, nous, on a continué son œuvre et je suis sûr qu'il est fier. Mais de toute façon, je suis même pas sûr. Il est avec nous et il est en nous. Et voilà, on continue son travail et on le rend fier ce soir.
Merci beaucoup Bruno Luzzi d'avoir été avec nous. Encore bravo. Voilà, bravo à Julio également, ton frère qui est le président aujourd'hui du FC Chambly-Oise aussi. Voilà.
Ouais.
Merci beaucoup Bruno.
Merci
à bientôt.
Beaucoup, Nico. À bientôt.
Au revoir. Au revoir Bruno Luzzi. Voilà. Chambly qui sera donc en Ligue 2 la saison prochaine et annonce faite donc par son entraîneur. Visiblement l'histoire du stade est réglée. Hein. Voilà, les annonces vont être faites dans les prochains jours maintenant que la montée est acquise. Hein. Quelques petites infos du jour également, messieurs. Alors le match Nantes-Dijon de la 35e journée qui était prévu le 4 mars a été décalé au 5 mai à 15h. Le 5 mai qui approche justement et sur là vont se tenir du coup 5 affiches de Ligue 1. Roxana Maressini-Anou, ministre des Sports, était l'invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur RMC. Alors faut-il jouer le 5 mai, date à laquelle il y a eu la catastrophe de Furianis, c'était en 92, on rappelle qu'il y a eu 18 morts. Sa réponse c'était ce matin chez Jean-Jacques Bourdin.
Est-ce qu'il faut supprimer tout match de football professionnel ce jour-là, le 5 mai, à cette date-là?
C'était un drame. C'était un vrai drame ce jour-là, le 5 mai. Après, voilà, je pense.
Vous vous souvenez? Enfin, vous savez de quoi il s'agit?
Je sais de quoi il s'agit, oui. Des tribunes qui s'effondrent, des gens qui pleurent.
Est-ce qu'il faut interdire tout match de football ce jour-là? Plus de matchs le 5 mai?
Je n'ai pas forcément d'avis sur la question.
Bon.
Voilà.
Bon, d'accord.
Voilà, énormément de réactions hein, après d'ailleurs cette réaction justement de Roxana Maracineanu, la ministre des Sports. Le collectif des victimes du 5 mai 92 qui a réagi dans un communiqué en disant, je cite, ce mépris affiché par la ministre des Sports à l'égard des 19 victimes et de 2357 blessés est tout simplement honteux.
Non mais alors deux choses. Déjà, c'est un naufrage politique, c'est quelqu'un, je sais pas pourquoi j'ai pas envie de lui tirer à boulet rouge dessus vu qu'apparemment elle veut légaliser le MMA, mais bon, je me demande encore comment elle a obtenu ce poste-là. C'est un nom, etc. On sait que c'était une grande nageuse, mais quand t'es ministre des Sports, il y a quand même des dossiers à maîtriser et je pense que ça fait partie du béaba de ce que tu dois savoir, surtout quand tu vas dans une émission politique et que tu sais que ce genre de questions va être posées. Deuxièmement, le deuxième élément de réponse, mais maintenant il y en a ras-le-bol, je suis désolé, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais il y en a ras-le-cul de voir des matchs qui sont programmés le 5 mai. Je sais que le calendrier en fin de saison est surchargé, mais un peu de respect, un peu de décence, putain. Le 5 mai, on joue pas et ça me semble pas être compliqué non plus à mettre en place. Là, t'as un match qui est décalé en plus. Pourquoi tu le mets le 5 mai? Tu peux pas le mettre le 6, tu peux pas mettre le 4? S'en fout du diffuseur, là. C'est abusé. Moi, je trouve ça, mais c'est scandaleux. Et ça m'énerve tous les ans.
Ludo.
Non, bah, sans monter dans les tours, mais.
Non, mais c'est incroyable. Tous les ans, on nous pose la question, tous les ans. T'as ces gens du collectif avec les familles des gens qui étaient à Furiani qui. Arrêtons les polémiques inutiles. Ça coûte quoi de déplacer les matchs, Ludo?
Le foot est quand même un sport majeur de notre société, de la société française. Le fait que ta ministre des Sports ne maîtrise pas ce dossier-là est quand même assez gravissime. C'est pas un drame, c'est le drame qui a marqué notre football et qui devrait justement ce jour-là devrait on devrait pas jouer et ça devrait même pas être au débat, c'est quelque chose de c'est du bon sens, ça me paraît d'être du bon sens,
c'est du respect
et du bon sens. Or on en manque cruellement dans le milieu politique et je pense que c'est bien dommage.
C'est même pas que dans le milieu politique. Si on a beau dire on aime le foot, tous les gens qui écoutent l'after aiment le foot, mais on n'est pas vraiment un grand pays et un pays avec une très grande culture foot, tu vois ce que je veux dire, comparé en Italie, en Espagne, en Amérique latine. Et ça, le fait de pas respecter ce genre de choses, ça participe à rendre notre pays un pays bête en termes de culture et de référence footballistique. Il faut marquer les dates comme ça. Je suis désolé.
Là, ça va même au-delà du foot.
Mais bien sûr.
Mais tu sais,
bien
sûr. Enfin, le fait que il y a déjà 4 matchs de prévu le 5 mai. Bon, il y a déjà le débat qui existe. Mais c'est vrai que tu saches que t'es un match qui est décalé. Mais en plus à cette date-là,
c'est un manque de décence.
Et comment la Ligue et la Fédé ne peuvent pas s'insurger quand même aussi, parce que ok, certes, la ministre maîtrise mal son dossier, mais où est la Fédé, où est la Ligue dans ce dossier? J'entends pas moi parler.
Nathalie Bois de la Tour.
Ils sont où ces gens-là? C'est quand même. Je sais pas. On marche sur la tête. Mais bon, peut-être que aussi par le biais des syndicats comme l'UNFP, le syndicat des footballeurs, faut peut-être que ça vienne de nous et que nous refusions de jouer le 5 mai. Ça doit peut-être venir de nous.
T'en aurais la possibilité.
Cette fois-ci, je l'aurais fait moi. Ouais. Je l'aurais suggéré.
T'as raison. Voilà.
Et puisqu'on parlait justement de commémoration également, alors sachez que le match pour le sacre peut-être du Paris Saint-Germain dimanche 21h face à Monaco, le coup d'envoi fictif du match sera donné par des pompiers de Paris, voilà, en hommage aux pompiers qui ont éteint l'incendie à Notre-Dame. Il y aura un maillot commémoratif de la part du Paris Saint-Germain. Il y aura un maillot également commémoratif qui sera mis en vente, dont les fonds seront reversés à l'Association des pompiers de Paris. Et même Monaco aura un maillot qui rendra hommage également à Notre-Dame.
Très bien.
Voilà, beaucoup de...
Très très bien.
Beaucoup d'hommages. Merci beaucoup en tout cas les gars d'avoir été avec nous. Merci Ludo.
Salut. Merci pour ton talent Nicolas.
Merci beaucoup Jonathan. Merci beaucoup à Jérôme Thomas également.
Salut Jérôme.
Qui m'a glissé des ordres et quelques interventions également au sein de mon oreillette. Merci à Daniel Torres pour la réalisation de cette émission. Et puis nous on se retrouve demain bien entendu. Tout à fait. Au revoir à partir de 20h.
Non c'est pas ça.
Dans la flotteur.
RMC. L'After Foot.